Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Il est certain que ce sont là des paroles tout à fait particulières, grandes. Là, on peut dire que le Seigneur présente le centre vraiment de son œuvre de salut au milieu des hommes. Et il n'a pas peur d'employer ces expressions étranges pour qui ne les pénètre pas, manger ma chair et boire mon sang. Et vous savez que sur ces paroles, les siècles passés ont accumulé plus de ténèbres encore qu'elles n'en ont par ailleurs sur toute leur déviation. Vous savez combien de choses invraisemblables, combien de dogmes stupides et sans raison ont été accumulés sur les paroles que voici. Nous trouvons deux affirmations de même objet. L'une négative, l'autre positive. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, ou si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Voilà l'affirmation négative d'abord. Ce qui ferme la porte du royaume de Dieu et du salut à tout homme qui chercherait à emprunter une autre voie que celle-là. Il faut manger et boire la chair et le sang, sinon vous n'avez point la vie. Toute autre voie, tout autre moyen est mauvais. Il ne peut pas procurer le salut. Alors, chers amis, un petit mot simplement, parce que je vous ai promis de traiter la question à part. Nous avons dit qu'il y a souvent une fausse évangélisation et un faux salut présenté. Eh bien, si l'on n'amène pas des âmes à boire et à manger, vous le voyez, à moi qu'il dit, ben, si on ne les amène pas à cela, et vous comprenez que c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui ne reste pas superficiel. Manger et boire, c'est pas superficiel, c'est pas simplement un goûter quelque chose, c'est manger et boire. Par conséquent, si on n'amène pas des âmes à cela, elles n'ont pas la vie éternelle, elles n'ont pas le salut. Donc, une affirmation négative qui renforce, vous voyez, de beaucoup l'affirmation positive, étant donné que, d'abord, c'est la fermeture de toute autre voie. Et puis, l'affirmation positive, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors ça, c'est l'affirmation positive qui est nécessaire, et ces deux affirmations, vous comprenez, constituent ensemble un tout, et nous voyons bien que il y a là, n'est-ce pas, quelque chose d'absolu. C'est ça ou c'est rien. Ce n'y a pas de moyen terme. Ou bien c'est manger et boire, dans le sens que portent ces paroles. Ou bien alors, ce n'est rien du tout, vous n'avez rien, on n'a rien autrement. Pour comprendre alors ces paroles maintenant, nous allons nous souvenir de deux choses. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus n'innove jamais dans sa manière de s'exprimer, pas plus d'ailleurs que dans la mission qu'il vient accomplir. Il vient accomplir ce qui était annoncé par les prophètes d'autrefois. Et si l'on savait prudemment se servir de cela, ça, le Seigneur nous a donné en somme deux moyens, n'est-ce pas, l'annonce et puis l'accomplissement. La proclamation par les prophètes d'autrefois et l'accomplissement par Jésus-Christ. Alors, si nous savions nous utiliser cela, comme on utilise deux vues pour obtenir le relief, n'est-ce pas? Eh bien, nous aurions, nous, le relief de la vérité, c'est-à-dire, nous aurions une vérité solide. Nous allons donc nous rappeler deux choses de l'Ancien Testament. La première, c'est l'agneau pascal. Je résume très vite, vous connaissez cela, la Pâque, Pécha. La Pâque qui a eu lieu la première fois dans le pays de Gozen en Égypte, au milieu du peuple d'Israël. Nous arrivions à la toute dernière plaie, la dixième plaie, et alors l'ange exterminateur devait passer sur toute l'Égypte et faire mourir tous les premiers-nés des hommes et des animaux. Ça, c'était la règle générale. C'était le jugement général pour tous. Mais le peuple d'Israël pouvait être préservé de cette mort à condition de tuer dans les conditions fixées, n'est-ce pas, comme c'était indiqué par Moïse, de tuer un agneau pascal au moment décisif, et puis de prendre son sang et avec un rameau d'hysope, d'asperger l'encadrement de la porte, le linteau et les deux montants, tout l'encadrement de la porte de la maison. Et chaque fois qu'une maison portait ainsi le signe du sang, n'est-ce pas, sur son encadrement, l'ange passait par-dessus cette maison sans semer la mort chez les premiers-nés au premier-né de cette maison. Ça, il passait par-dessus, pécha, ce qui est devenu la Pâque, passer par-dessus. Rappelons-nous cela. Le sang, donc, servait de marque pour être préservé de la mort, et la chair de l'agneau, elle était mangée, rôtie au feu, puis elle était mangée alors, par ceux qui étaient prêts à partir, n'est-ce pas, le bâton en main, les reins sains de leur ceinture, n'est-ce pas, ils étaient prêts à partir dès qu'ils avaient mangé la chair au feu, n'est-ce pas, eh bien, rôti au feu, ils partaient. Ainsi, le sang, c'est la préservation de la mort, c'est donc l'expiation. Pour être préservé de la mort, il faut que le péché soit expié. C'est donc le sang qui fait l'expiation. Et la chair, manger, c'est la délivrance du joug de l'Égypte, la délivrance du mal, du monde, etc. C'est la délivrance. Voilà la première chose qu'il faut se souvenir. Une deuxième chose, dans les Proverbes. Dans les Proverbes, au chapitre 9. Vous n'avez pas trop d'air? Non, je sens un petit souffle là, non? Non, ça va. Bon. Proverbes, chapitre 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses sept colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Voilà exactement ce sur quoi Jésus va se fonder, n'est-ce pas, son langage est fondé là-dessus, tout en s'inspirant beaucoup de la Pâque que nous avons rappelée. Voyez ici la sagesse. La sagesse est la sagesse de Dieu. Elle crie à l'insensé et aux stupides, à ceux qui sont dépourvus de sens, c'est-à-dire aux hommes qui vivent dans la dissolution, dans le péché, aux hommes qui n'ont pas souci de la sagesse, c'est-à-dire des principes supérieurs qui viennent de Dieu, apportés par la parole de Dieu. Ils n'ont pas souci de ces lois supérieures. Des lois de la sagesse, ils sont stupides, ils sont dépourvus de sens, c'est l'homme pécheur. Mais il est sollicité, cet homme pécheur. Il est sollicité, venez et mangez de mon pain. Et il est dit que la sagesse a bâti sa maison, elle a alors bâti sa maison, bâti son temple. Nous voyons, n'est-ce pas, là, ici, déjà une proclamation encore, parmi d'autres, dans l'Ancien Testament, de ce que Jésus est celui qui vient dans son temple, le messager de l'Alliance qui vient dans son temple et qui bâtit la maison de Dieu. Elle a taillé ses sept colonnes, les sept colonnes, c'est-à-dire des colonnes, des appuis que Dieu donne, des appuis qui sont parfaits. Elle a égorgé ses victimes et mêlé son vin, n'est-ce pas? Ça, c'est le sang qui coule et les victimes, c'est un rappel, n'est-ce pas, aux ordonnances de la loi de Moïse. Les victimes qui sont là pour l'expiation, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Le Seigneur dresse une table et nous dit, venez manger et buvez. Venez manger de mon pain et buvez du vin. Alors, le pain, Jésus vient de parler du pain de vie et il dira, le pain c'est moi, c'est ma chair que je donnerai pour le monde. Alors, le pain, le vin, eh bien, le vin et le sang sont toujours en relation dans l'Écriture, et il était normal que le Seigneur Jésus passât du vin, qui est l'image, n'est-ce pas? Nous l'avons vu déjà dans la Genèse l'autre jour. Si vous vous rappelez, au chapitre 49 de la Genèse, nous avons vu, il lave son manteau dans le vin, n'est-ce pas? Et le vin représente le sang. Venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Le vin a été mêlé, c'est-à-dire que c'est le vin qui va prendre le mauvais, l'iniquité. C'est le sang qui va prendre et qui va porter, qui va faire l'expiation pour ce qui est mauvais. Voici donc des appuis de l'Ancien Testament. Ceci étant dit, voici ce que signifient les termes boire et manger dans notre passage. Boire le sang et manger la chair. Le mot d'ailleurs est bon, incorporé. On pourrait dire, pour reprendre un mot que j'ai déjà employé, s'approprier. S'approprier quoi donc? Ce que fait le sang, c'est-à-dire l'expiation. Donc, la réconciliation avec Dieu, puisque c'est le péché qui établit une disjonction, une séparation entre Dieu et l'homme. Et attention, nous retrouverons ça dans les explications plus précises je vais entrer ce soir dans des explications fondamentales. Je vous expliquerai plus au fond tout cela, mais commençons par recueillir déjà cela. Donc, s'approprier l'expiation, donc la réconciliation de Dieu. Et manger la terre, c'est manger la vie véritable du Seigneur. Ça aussi, je l'expliquerai mieux, n'est-ce pas? Je vous donne déjà quelque chose qui vous fait comprendre et l'environnement de cette vie. Vous savez ce que nous avons appelé, n'est-ce pas, environnement. J'y reviendrai un peu pour que vous compreniez. Donc, s'approprier la vie véritable et l'environnement de cette vie qui est donnée parce qu'elle est brisée. Ben, elle est donnée parce qu'elle est brisée. C'est ma chair que je donnerai pour le monde. Nous avons bien vu que cette expression signifiait, n'est-ce pas, une mort, n'est-ce pas, une chair brisée, une chair donnée. Le don, donc, est fait à la croix. Et en ces deux choses, s'approprier d'une part l'expiation, ce qui correspond à manger le sang, et par l'expiation avoir la réconciliation, tout cela c'est manger le sang. Deuxièmement, manger la vie véritable avec son environnement, n'est-ce pas? Eh bien, en ces deux choses réside le salut. Il a la vie éternelle, celui qui fait cela, en ces deux choses réside le salut. Et en dehors du manger et du boire, du manger la chair et boire le sang, en dehors de cela, point de salut, c'est la forme négative que nous avons eue. Mais si l'on mange et si l'on boit, alors il y a une assurance de salut, la forme positive, et cette assurance est telle que le Seigneur dit « Celui-là, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle, je lui donne, et bien entendu, je le ressusciterai au dernier jour. Ce ne peut pas en être autrement. Je le ressusciterai au dernier jour, n'est-ce pas ? Il entre dans ce que le Seigneur ressuscitera au jour venu de la résurrection. Il y a donc une attente pour ceux qui mangent et qui boivent, une attente assurée de la résurrection du dernier jour. Alors, nous allons nous avancer un peu plus dans les explications. Je vous ai déjà donné, n'est-ce pas, nous avons dégrossi la chose, je vous ai donné le sens déjà, le sens à connaître déjà, n'est-ce pas, mais ce sens, vous le voyez. Alors, nous allons nous informer un petit peu plus. Au verset, nous relisons les versets 56 et 57. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Le verset 56, après les deux grandes affirmations que nous avons eues, nous avons vu aussi que le verset 55, j'ai eu tort, oui, de ne pas le relire là, « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Oui, le Seigneur dit « Attention, c'est pas factice, ça. C'est pas factice. Ma chair est vraiment une nourriture. » Ah, il ne s'agit peut-être pas de la croquer avec les dents, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment une nourriture. N'allez pas croire que parce qu'on ne mange pas avec les dents, n'est-ce pas, que ce n'est pas une nourriture. C'est pour ça que le Seigneur insiste. C'est vraiment une nourriture. Et vous allez le comprendre. Je me propose de vous faire comprendre cela aujourd'hui. Bien qu'il ne s'agisse pas de manducation, n'est-ce pas, avec la bouche, avec les dents. C'est ça. Je dis ça parce que le dogme de la transsubstantiation qui fait manger quelque chose avec la bouche est une grossière, une très grossière erreur. Il faut vraiment qu'on se soit enfoncé dans les ténèbres pour en être arrivé là. Alors, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Lorsque par la foi, il s'agit naturellement d'un accomplissement par la foi, mais vous savez que la foi est capable de beaucoup plus de choses. La foi n'est pas une adhésion, et nous voyons ici, n'est pas une adhésion, n'est pas un accord donné à une certaine proposition, n'est-ce pas ? N'est pas ça, c'est pas intellectuel, c'est pas cérébral, hein ? C'est autre chose, c'est le cœur de l'homme, le cœur, il faut croire que nous avons un cœur, c'est-à-dire un centre où l'Esprit de Dieu peut entrer, peut se manifester. Eh bien, c'est par la foi, donc, qui est un sens spirituel donné à l'homme, à tout homme, lorsque par la foi le sang est bu et la chair mangée comme une nourriture, alors il y a une incorporation. Il y a une incorporation. Quand vous mangez du pain, vous l'incorporez dans votre estomac. Il y a là donc une incorporation, mais de quoi ? De réalités spirituelles sur lesquelles nous reviendrons. C'est pour ça que le problème est plus difficile, n'est-ce pas ? S'il s'agissait de manger quelque chose de substantiel, nous comprendrions très vite. Mais comme il s'agit de manger des réalités spirituelles, ben j'emploie ce terme, une incorporation de réalités spirituelles, alors nous sommes évidemment moins aptes à comprendre. Il y a incorporation donc des réalités spirituelles qui correspondent au sang et à la chair. À la chair et au sang sont attachés, entendez-vous bien, et je vous le montrerai, des grandes réalités spirituelles. Mais pour ça, il dit, ma chair est vraiment une nourriture, parce qu'à ma chair est attachée quelque chose que vous ne pouvez pas voir, quelque chose de spirituel. À ma chair est attachée, à mon sang est attachée une autre chose, qui est spirituelle. Et il faut manger ça, parce que ces réalités spirituelles, il faut qu'elles rentrent en vous, il faut qu'elles soient consommées dans votre, en vous, dans votre personne. Voyez, sommes loin du petit salut par adhésion, hein? Alors, il y a incorporation, donc, des réalités qui correspondent aux chairs, à la chair et au sang. Et s'il y a incorporation, il y a union intime avec celui qui fournit la chair et le sang. C'est-à-dire avec Christ, n'est-ce pas? Si je mange Christ dans ce sens, si je lui prends les deux réalités spirituelles qui correspondent au sang et à la chair, eh bien, je prends Christ, n'est-ce pas, j'ai une union intime avec Christ, donc le vrai salut conduit à une communion. C'est ce qui est appelé la communion, ce mot est très beau, n'est-ce pas, il vient d'un terme grec, c'est assez voisin dans la prononciation, eh bien, c'est le vrai salut conduit à la communion. Alors, j'insiste là en passant, n'est-ce pas, quand un salut prétendu ne conduit pas à la communion avec Christ, il n'y a rien. Il n'y a rien de ça. Il est prétendu, c'est tout. C'est tout. Il faut que le salut conduise à cette communion. Il faut qu'on sente Christ en soi. Il faut qu'on se sente entrer dans Christ. Sans quoi, ce n'est pas possible. Alors, je suis obligé, puisque le Seigneur, le texte nous le dit, n'est-ce pas, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Vous savez que la communion, nous l'avons représentée l'autre jour, c'est cette double incorporation. Elle a souvent été la communion. Cette petite image qui était bien facile, n'est-ce pas, de la redire, c'est pas méchant, une éponge. Une éponge est dans l'eau, et l'eau est dans l'éponge. Vous voyez, cette double pénétration, bon, c'est pas très méchant, tandis qu'une pierre qui est dure, qui est fermée, elle est dans l'eau, mais l'eau n'est pas dans la pierre.
Et pourquoi le cœur de pierre? Ben, ça ne marche pas. Le cœur de pierre, il faut avoir le cœur ouvert. Bon, ce sont des petites comparaisons.
Mais pas bien méchant, c'est la preuve spéciale. Ça vous montrer que cette double incorporation. Alors, une communion réelle de la personnalité de Christ aux croyants, n'est-ce pas, et une incorporation de cette personnalité de Christ, celui qui me mange, après avoir dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, le Seigneur dit celui qui me mange, moi, c'est une incorporation de la personnalité donc de Christ dans l'homme de foi. C'est un transfert de Christ en personne dans l'homme de foi. Quant à celui-ci, l'homme de foi, il demeure en Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire que sa vie va se cacher en Christ. Nous avons cette autre expression dans une épître de Paul, la vie cachée en Christ. Hein? La vie de ce croyant sera cachée en Christ, transférée, il y a un transfert de sa vie dans un environnement nouveau, celui de la vie véritable. Et comme le texte nous dit, n'est-ce pas, que comme je vis du Père, vous-même, vous vivrez de moi, alors nous pouvons faire le petit schéma que voici. Si vous avez de l'eau, là, fermez. Voici ce que je représente ici en faisant être l'environnement dans le grand environnement de la vie véritable, l'environnement. Et je représente schématiquement ici le Père et le Fils. Dans ce grand environnement de la vie, car Dieu a cet environnement, il en dit bon, bien entendu, n'est-ce pas? Et cet environnement est quelquefois appelé la gloire dont le Père est entouré et qui aussi donne lieu à une lumière, n'est-ce pas? Il y a une lumière physique même, n'est-ce pas? Ne remettons pas cela. Voilà l'environnement de justice, de sainteté, de lumière, d'esprit, n'est-ce pas? Le Père et le Fils ont cet environnement. Seul, n'est-ce pas, la personnalité de Dieu possède cet environnement, le Père et le Fils. Alors, le Fils a quitté le sein du Père, et puis il est venu dans le monde sous le nom de Christ. Il est venu, il a quitté le sein du Père, il est venu sous le nom de Christ. Et là, il y a eu, évidemment, quelque chose qui se nomme l'incarnation. Pour venir de là, il y a eu incarnation. Et le Christ, alors, s'est approché, portant la même enveloppe de lui, il s'est approché d'une certaine créature qui s'appelle l'homme. Il s'est approché de l'homme, n'est-ce pas? Et alors, il parle à l'homme, il parle à son niveau, il l'instruit, et il lui dit, si tu manges ma chair, et si tu bois mon sang, tu auras la vie éternelle, je te ressusciterai au dernier jour. Mais, maintenant, tu vas demeurer en moi, et moi, je vais demeurer en toi. Il va y avoir quelque chose entre nous. Et que se passe-t-il? Eh bien, il nous est dit que déjà, n'est-ce pas, les effets de cette communion, il ne faut pas oublier le reste de la vie, la communion s'établit, n'est-ce pas,
cette communion. Alors, que nous pouvons marquer ici de deux flèches inversées, montrant, n'est-ce pas, que l'homme va en Christ et que Christ va dans l'homme, s'il y a cette communion, enfin, il nous est dit que déjà nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous ne sommes pas corporellement, bien sûr, mais alors nous sommes obligés de faire quelque chose ici. Et de transférer, il y a un transfert, une transplantation de la vie de cet homme ici, assis dans les célestes, en Christ. La vie cassée en Christ, mais Christ, il est cassé, il est, sa vie est cassée dans le terre. Le Christ est toujours le Fils, même étant sur la terre, il n'est jamais séparé, il est un avec le Père. Il reste dans cette union, lui, le Fils, n'est-ce pas? Alors, ici, n'est-ce pas? Eh bien, cet ordre, sa vie, est transféré ici, n'est-ce pas? Et alors, de même que le Fils vit par le Père, de même lui, cet homme, il vit par le Fils. Alors, lisez le chapitre 17 de Jean, vous verrez, n'est-ce pas, cela. Je suis un, comme je suis un avec le Père, celui qui est mon disciple, n'est-ce pas, est un avec moi. La même chose, nous sommes ensemble. Alors, il y a même un passage de Jean qui dit, le Père en moi, n'est-ce pas, moi dans le Père, et moi dans l'homme, et l'homme en moi, n'est-ce pas. Alors, nous viendrons, Père, n'est-ce pas, nous viendrons tous les deux vers notre habitation chez lui. Il y a cette union, n'est-ce pas, qui se réalise. Ah, être plus grand, plus magnifique. Et alors, quel est l'environnement donc nouveau proposé à cet homme? Eh bien, c'est l'environnement de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous dire, écoutez, vous allez monter un petit peu, vous allez vous arrêter à mi-chemin, vous allez faire un petit progrès. Non, soyez parfait comme mon Père est parfait, et parce que vous entrez dans cet environnement de la perfection. Et c'est, vous allez être nourri des substances de cet environnement. Ah, vous comprenez les choses, comme elles sont grandes, comme elles sont magnifiques. Et ce sont ces choses grandioses, on peut dire, n'est-ce pas, fabuleuses, immenses. On comprend Paul qui dit, mais on ne peut plus mesurer tout ça. Alors, il y a une hauteur, il y a une largeur, on ne réalise plus. Mais non, nous ne réalisons plus, mais acceptons ces choses par la foi. Ainsi, la vie de Christ est transmise aux croyants, à l'homme de foi, comme elle l'est du Père au Fils. La même chose, pas autrement. C'est pas un petit filet qui vient de Christ à l'homme, alors que du Père au Fils, il y a, n'est-ce pas, un grand conduit. Non, c'est de la même manière. Et l'environnement de la vie, il n'y en a qu'un environnement de la vie, accueille le Christ et son disciple, n'est-ce pas, il accueille tout. Il accueille tout cela. C'est pourquoi, c'est le sens de cette grande énonciation, vous êtes assis dans les célestes avec Christ en Dieu. Voilà le grand cercle. Vous êtes là-bas. C'est immense, chers amis. Et quand, n'est-ce pas, on prêche un petit salut déjà lui, eh bien, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces vérités, voyons? Vous croyez que Dieu donne cela comme ça? Non, celui qui ne mange pas et qui ne boit pas n'a pas la vie éternelle. Lorsque l'homme de foi mange Jésus, il obtient de Jésus une vie et un soutien, un entretien de la vie. Il y a un entretien dans l'environnement, n'est-ce pas? L'environnement nous montre l'entretien de la vie, tout comme l'environnement de la vie physique, qui, je le rappelle, est constitué d'air à respirer, d'humidité, de lumière, de nourriture terrestre pour le corps, etc. Ça, c'est l'environnement. Vous savez qu'aucun homme, aucun être vivant, d'une manière générale, ne peut vivre tout seul. Ça, c'est la grande folie, je le répète, de l'homme de notre temps. Ça étant vivre tout seul.
C'est comme si on lui disait, bah, puisque tu peux vivre tout seul, alors va-t'en dans la lune tout seul, on va te déposer là-bas dans la lune, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'humidité, tout au moins, il n'y en a pas à prendre maintenant, n'est-ce pas? Même si certaines roches recèlent un petit peu d'oxygène et d'hydrogène, n'est-ce pas? En tout cas, il n'y a pas d'humidité disponible, il n'y en a pas, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas de lumière sur la face noire, ben on va te mettre sur la face noire de la lune, puis tu vas rester là, ben oui, ben, tu vas mourir. Tu vas mourir aussitôt, ça ne va pas durer longtemps, tu vas mourir. Ben, l'homme ne peut pas vivre sans environnement. Son corps le crie. Son corps le crie. Il exige l'environnement. Et puis, alors, son être spirituel, qui est avant tout sa personnalité, pourrait, elle, vivre sans environnement? Vous voyez la folie de l'incrédulité de l'homme séparé de son Dieu. Seul Jésus a accès au Père, bien entendu. Ce n'est pas que un homme puisse avoir, lui, directement accès au Père. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il passe par Jésus pour manger la chair et boire le sang, avoir l'expiation et recevoir cette transmission, ce transfert de vie. Mais Jésus prend la vie et l'environnement de la vie, n'est-ce pas? Il l'a, lui, il l'a, puisqu'il est avec le Père. Alors il prend cela, avec selon la volonté du Père, bien entendu, c'est pas la sienne, c'est la volonté du Père, il prend cela et le transmet à ceux qui sont devenus ses frères, les hommes. Sous condition de manger et de boire. Et ainsi, Jésus est vraiment le pain de vie. Et il y a un passage d'une épître qui nous le montre très bien. C'est l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 10. Je ne vais pas relire toute la phrase qui est longue. Verset 10, chapitre 1er. Il s'agit là... d'un mystère de la volonté de Dieu, le mystère de la volonté de Dieu, n'est-ce pas, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voyez-vous, Christ est celui qui réunit toutes les choses. Il réunit, n'est-ce pas? Il réunit, voilà le mystère de Dieu. Il réunit toutes choses, il vient, il est envoyé, et nous voyons, n'est-ce pas, très bien, ce déplacement, la nécessité de ce déplacement. Il est envoyé, il insiste beaucoup sur ce déplacement, comme envoyé. Il est envoyé vers qui? Vers l'homme. Il est envoyé vers l'homme, il vient à son niveau, il lui parle, il accomplit quelque chose dans la terre. Nous en parlerons surtout cet après-midi. Il accomplit quelque chose. Il lui donne alors sa chair et son sang à manger et à boire, n'est-ce pas? Il lui donne cela, et puis alors, cela étant fait, dans sa personne, il réunit tout parce qu'en lui, il y a le Père. Vous voyez, on ne peut pas se séparer d'une seule des énonciations de l'Évangile. Remarquez comme c'est beaucoup plus précis que les sciences humaines, parce que souvent, dans des listes de mathématiques, moi j'ai fait des mathématiques autrefois, eh bien, il manque bien des choses dans les développements, souvent, c'est ça? Eh bien, là, il manque rien. Et il nous est dit, rappelons-nous ce langage tenu par le Seigneur Jésus à Philippe. Quoi, Philippe, tu veux voir le Père? Je ne suis pas que le Père est en moi, je suis dans le Père. Celui qui m'a vu, eh bien, il a vu le Père. C'est ça? C'est tu passes là, et voyez ça, c'est nécessaire. Parce que Christ réunit tout en lui, mais le Père est en lui, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'il réalise cela.
De 58 à 58, au verset 58, nous voyons là, n'est-ce pas, le Seigneur qui conclut en quelque sorte, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ben, les Juifs en étaient encore à cette pensée d'un aliment qui pouvait descendre du ciel, et puis qui aurait été extrêmement expédient pour eux, parce que s'agissait d'être nourri à bon compte, puis d'être nourri facilement, n'est-ce pas, le miracle qui vient sans changer l'homme, magnifique. Ah, c'était leur conception. Hein, recevoir tout ça, ah, ben oui, ben, si ça pouvait être toujours comme ça, hein, ce serait très bien. Mais c'est la terre, on veut encore de ça. Et la terre croira le trouver dans l'Antichrist qui vient. L'Antichrist fera cette promesse. Moi, je vais vous donner tout, la paix, la sécurité, la nourriture, l'abondance, tout. Et puis restez des pécheurs comme vous êtes. Mieux, je veux que vous soyez des pécheurs. Je veux que vous fassiez ce que je vais vous dire. Et moi, je suis l'homme du diable. Je suis l'homme de Satan, n'est-ce pas? Eh bien, les Juifs, comme les hommes maintenant, pas tous les hommes en général, voudraient l'abondance, voudraient la facilité. Ils voudraient que tout soit parfait sur la terre. Et ils voudraient faire leurs quatre volontés, pouvoir s'échapper dans le cosmos, et puis que tout aille bien, qu'il n'y ait pas d'ennui, pouvoir faire les pires imprudences, n'est-ce pas, et puis qu'il ne s'en suive jamais d'accident, etc., etc. Ils voudraient tout cela. Hein, quand quelqu'un est frappé dans le monde aujourd'hui, ah, à ce moment-là, on dit, ah, mais alors Dieu ne nous protège pas, il ne veut pas nous protéger. Ils voudraient la protection de Dieu, alors qu'ils ne veulent pas de Dieu pour transformer leur cœur et pour laver leur mauvaise conscience. N'est-ce pas? Voilà. Alors, le Seigneur dit non. Le pain, la manne, c'était quelque chose qui avait sa place dans le dessein de Dieu, certes, mais cela, c'est fini, c'est pas une chose qui sauve. Ce qui va vous sauver, c'est de manger et de boire ce pain que je vous apporte. Alors, plusieurs des disciples, ayant entendu cela, dire cette parole est dure, qui peut l'écouter. Bien entendu, c'est une parole dure. C'est vrai qu'elle reste dure. Mais, chers amis, c'est une parole aussi qui fait séparation. Et si vous l'acceptez, même en admettant que, après nos explications, vous ne l'ayez pas encore pleinement pénétré, vous y réfléchirez, à vous d'y réfléchir, surtout dans la prière. Mais si vous l'acceptez comme Pierre va le faire, n'est-ce pas? Si vous l'acceptez, cette parole, eh bien, alors vous montrerez ainsi que vous êtes de Christ. Et vous mangerez et vous boirez par la foi, sans trop savoir tout de suite, peut-être exactement, toute la portée de ce que vous faites. Mais vous le ferez. Ce qu'il faut, c'est le faire. Et alors Jésus va leur dire, ben, ça vous scandalise que je parle de manger de ma chair et de boire mon sang, ça vous scandalise. Et si vous me voyez tel que je suis là, emporté dans les airs, qu'est-ce que vous diriez? Même aujourd'hui, hein, si le Seigneur était là sur la terre, et puis que nos grands scientifiques, là, tous nos savants, les rassembleraient pour ce jour-là au Cap Kennedy, n'est-ce pas? Puis on leur dirait, écoutez, laissez votre fusée de côté, vous allez voir quelqu'un qui va monter dans les airs. Hein? Un homme qui va s'élever tout seul, sans cette énorme fusée de 110 mètres de haut, n'a pas besoin de ça. N'a pas besoin de tout ça, même des fusées plus fortes, n'a pas besoin. Aucun besoin de vos fusées. Laissez ça au repos. Et regardez, un homme s'élever dans les airs. Ah, oui, ça, effectivement, n'est-ce pas? Sans battre, sans avoir des ailes, sans battre l'air, sans rien faire, il s'élève. Il s'élève dans les airs, il a traversé le premier ciel, il a traversé le second ciel, et il est allé au troisième ciel. Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, alors que diriez-vous? Vous seriez scandalisé, mais vous seriez scandalisé d'un fait que vos yeux verraient. Et là, vous êtes scandalisé d'un fait que vos yeux ne voient pas. Je vous parle au moyen de la parole, n'est-ce pas? Et vous êtes scandalisé, mais si vous êtes scandalisé là, alors quelle attitude aurez-vous lorsque vous verrez quelque chose, vos yeux verront quelque chose, alors là vous serez confondu. Alors ne soyez pas de ceux qui refusent toujours tout parce qu'ils ne comprennent pas, parce que leur pauvre petite raison n'arrive pas, ce pauvre petit ordinateur. Réduit à rien du tout, il y manque un tas de rouages, il y manque des quantités de transistors et de fils dans cet ordinateur qui est la petite raison de l'homme, n'est-ce pas? Et puis ce petit ordinateur, il nous paraît très bien, n'est-ce pas? Il paraît qu'il est bien au-dessus encore de tous les ordinateurs que l'on fait, mais il est pauvre. Il est pauvre, il se trompe, comme se trompent d'ailleurs les autres ordinateurs. Eh bien, si, n'est-ce pas, l'on veut faire fonctionner cette petite raison humaine qui n'est pas faite pour cela, on ne comprendra jamais rien, on refusera toujours tout, on sera toujours scandalisé, n'est-ce pas? Tandis que il faut l'accepter parfois, parce que c'est quelque chose qui peut être cru. Celui qui dit cela, et même au gré d'un certain Ernest Renan, celui qui dit cela est un homme qui n'a jamais commis de faute et de péché. Même Ernest Renan, qui nie la divinité du Seigneur Jésus, ne peut pas ne pas reconnaître que c'est l'homme parfait. Or, lui, il se contente de ça, n'est-ce pas, d'un homme parfait. Ça n'a jamais existé, un homme parfait. Alors, s'il y a un homme parfait, c'est que cet homme est autre chose que homme. Et nous allons peut-être commencer un petit peu à entrer dans nos explications, parce que nous arrivons au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, écoutez bien cela. C'est-il bizarre, n'est-ce pas, que le Seigneur, regardez comme si on raisonne la parole, vraiment, on y voit coûte, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et pourtant, il nous a dit de manger la chair. Elle sert de rien. Oh, ben, si elle sert de rien, c'est pas la peine que je la mange. Vous voyez, si on raisonnait, n'est-ce pas? À quoi on arrive? Vous voyez à quoi on arrive? Et vous allez comprendre la grandeur des paroles du Seigneur. C'est magnifique. Sachez d'abord ceci. C'est que, premièrement, l'esprit existe avant la matière. Et c'est pourquoi, si je ne crois pas à cela, et si ça n'a pas eu en moi de répercussion, comme dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, si je ne crois pas que Dieu existe, eh bien alors je ne peux rien faire. C'est pas la peine que j'ouvre le livre. Si je ne crois pas, si je ne crois pas cela, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Celui qui vient, il faut qu'au moins il croit cela. Et s'il croit que Dieu existe, ça ne veut pas dire simplement, bon, ben, je crois qu'il y a un être suprême qui s'appelle Dieu, bon, allez, j'accepte l'assaut. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la foi. Il faut savoir que Dieu est esprit. Ce qui n'empêche pas la personne de Dieu d'avoir, elle, une forme, disons une forme. Mais ça, c'est autre chose. Je mets cette question-là de côté. Ne mélangeons pas. Mais Dieu est esprit. Alors, si je crois que Dieu existe, n'est-ce pas, je crois que l'esprit existe avant la matière. Chose que nient les matérialistes. Et je crois que Dieu existe avant la matière. Et je crois, puisque l'esprit existe avant la matière, que l'esprit est au-dessus de la matière. Il est de combien au-dessus de la matière? Et que c'est la matière qui est procédée de lui. La matière est procédée de l'esprit, c'est-à-dire, elle est venue de l'esprit, elle est venue par un travail de l'esprit. Ça, alors, voilà une première chose. Notez-le bien. L'esprit existe avant la matière. Dieu est esprit. Donc, l'esprit est au-dessus de la matière. Première des choses. C'est une loi. Faut connaître. Deuxième loi. Le corps humain, comme même le corps des animaux, mes amis, tout corps est créé pour donner forme à la vie. Et s'agissant du corps humain, nous pouvons dire alors que le corps de l'homme est créé pour donner forme à la vie et en plus pour servir d'instrument à l'esprit avec un grand T. Pour servir d'instrument à l'esprit. Il y a un passage qui nous dit cela. Un passage qui nous dit cela, chers amis. Voyez comme il faut. Il y a une concordance qu'il faut faire. Dans son cœur, une concordance du cœur. Mais ça, on ne peut pas l'imprimer, cette concordance-là, voyez-vous. Nous avons une concordance qui est faite, je m'en sers d'ailleurs maintenant de moins en moins.
il arrive souvent que je l'ouvre presque pas. Parce que c'est une concordance qui peut souvent, la concordance que nous avons, qui est imprimée, nous égarer. Si on ne sait pas l'utiliser, si on ne fait pas attention. Mais moi, j'y préfère la concordance du cœur. C'est-à-dire, n'est-ce pas, nous voyons une chose apparaître, une pensée, alors nous disons, mais où a-t-elle été exprimée, cette pensée-là? Cher ami, ce que je viens de vous dire, rappelons-le, le corps est créé pour donner forme à la vie, pour servir d'instrument à l'esprit, Où est-ce indiqué cela? Qui pourrait me le dire? Tiens, un exemple. Colossiens 1, 16,
la fin du verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui, pour l'esprit. Pour servir d'instrument à l'esprit, pour l'esprit. Par lui, bien sûr, c'est l'esprit qui a créé. Voilà nos deux lois énoncées, n'est-ce pas? Par lui et pour lui. Pourquoi pour lui? Mais pour servir d'instrument à l'esprit. Voilà pour comment a été créé l'homme. Et la chute a consisté à quoi? L'homme s'est refusé de servir d'instrument à l'esprit. Lorsqu'il a rompu avec l'esprit. Il a refusé. Il a refusé cela. Alors, donc tout a été créé par lui et pour lui, pour servir d'instrument à l'esprit, pour être le siège de l'activité de l'esprit. Et nous allons arriver à cette notion des actes de l'esprit, par le moyen de quoi? Du corps. Les actes de l'esprit par le moyen du corps. Toute l'économie nouvelle est là-dessus, mes amis. Tout est fondé là-dessus. Alors, le Christ dit ici, dans le verset 63, la chair ne sert de rien. Elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur par elle-même. Par elle-même. Elle n'a pas de valeur si elle est toute seule. Elle n'a aucune valeur. La chair ne sert de rien. Elle n'a aucune valeur absolue. C'est-à-dire, séparée de tout. N'est-ce pas? Elle est un support de vie. Elle était destinée à être le siège de l'esprit, le siège des manifestations ou des actes de l'esprit, n'est-ce pas? Mais séparée de l'esprit, comme elle l'a été par le péché, le corps. Séparée de l'esprit comme il l'a été par le péché, le corps n'est que mort. Il est sans valeur. Et c'est ce qui fait dire à Paul, vous voyez qu'en effet combien Paul avait pénétration du mystère de Christ, n'est-ce pas? Quelle science cet homme a touché. Eh bien, il dit, n'est-ce pas, vous étiez morts par vos offenses, parce que vous êtes des corps, mais non plus reliés à l'esprit, n'est-ce pas? Alors, lorsque un corps d'homme vit, c'est qu'il est relié à nouveau à l'esprit. Et c'est ce que fait le Seigneur. Seul, par conséquent, l'esprit est vie. L'esprit est la vie, parce que l'esprit et la vie se tiennent intimement. L'esprit et la vie ont force et éternité. Le corps ne peut pas l'avoir. C'est pas possible, il meurt. Pas possible. Il meurt. Et donc, seul l'esprit et la vie ont force et éternité. L'esprit veut accomplir des actes par le corps. Pour ça qu'il est dit, offrez vos corps en sacrifice agréable. Vous voyez toutes ces choses, ça, comme elles prennent leur place. Dans Romains 12, offrez vos corps en sacrifice agréable, parce que vos corps sont destinés des instruments d'esprit. Dans, si vraiment il y a salut, si vraiment il y a communion avec Christ, mais vos corps retrouvent leur fonction. C'est là qu'ils deviennent le temple du Saint-Esprit. C'est là qu'ils deviennent, n'est-ce pas, des instruments à nouveau, des instruments dans la main de l'esprit. Alors, l'esprit a des actes à accomplir par le corps pour se manifester dans le monde visible. Et dans la suite des explications que je vous donnerai, vous verrez ceci, c'est que le Seigneur qui est bien mangé ma chair et buvé mon sang, là, faites-le, et puis, quant à la chair elle-même, si vous la regardez isolément, et au sang, si vous le regardez isolément, ça ne sert à rien. Pourquoi manger ma chair et pourquoi boire mon sang? Parce qu'il y a un acte de l'esprit à accomplir par le moyen, par ce moyen. Mais une fois que la chose est accomplie, alors, ça ne sert à rien, ça ne sert plus, c'est fini. Ce sont les actes du Saint-Esprit, ce sont les actes, pas que fait le Saint-Esprit en vue de la vie, qui sont quelque chose. Mais il utilise le corps, c'est pourquoi la chair, dans le langage précédent, était bien nécessaire, à condition d'attacher à la chair et au sang les réalités spirituelles qui leur correspondent. Ça. Mais si vous voyez la chair et le sang sans ces réalités spirituelles, comme l'a vu le romanisme, qui a représenté le corps et le sang par un morceau de pain, n'est-ce pas, une hostie, et puis un peu de vin, n'est-ce pas, eh bien, si alors vous supprimez les réalités spirituelles, eh bien vous avez quelque chose qui ne sert de rien. Ne sert absolument à rien, et la messe, la communion avec tout ça ne sert de rien. De rien, c'est un rite mort et sans aucune signification. Mieux, n'est-ce pas, comme le dit le père Finiti, eh bien, il y a même idolâtrie dans ce rite. Nous tombons nécessairement dans l'idolâtrie, puisque nous avons abandonné complètement les réalités. Alors, la chair et le sang, ça ne sert de rien par soi-même. Mais ce que je vous ai dit, moi, ce sont des choses qui auxquelles sont attachées des réalités spirituelles, et je les appelle esprit et vie. Alors, ces réalités spirituelles, c'est elles qui sont importantes. Mais je vous parle de ma chair parce qu'il faut que je vous parle. Alors, c'est ce que je développerai cet après-midi. Pourquoi vraiment le langage du Seigneur. Amen.